La société Chilcoot, basée à Cavaillon, propose des événements, séjours et services de grand cyclisme, et notamment des voyages à vélo autour de thématiques littéraires, historiques ou encore géographiques. Et parmi ces événements, la Born to Ride, ou BTR, qui célébrera au mois de juin l'anniversaire de ses 10 ans par un voyage en 6 étapes entre Manosque et la ville italienne de Sienne, sur les traces du voyage en Italie de Jean Giono. Luc Royer, fondateur de Chilcoot, présente son entreprise ainsi que l'édition 2022 de la Born to Ride. Luc Royer, vous avez fondé Chilcoot. Qu'est-ce que Chilcoot ?
À l'origine, c'était une association. Maintenant, c'est devenu une petite société spécialisée dans l'événementiel et qui propose depuis 2012, on va dire, des voyages et des aventures à vélo autour souvent de thématiques, qu'elles soient littéraires, géographiques, historiques.
Chilcoot est basé à quel endroit ?
Dans le Luberon, à Cavaillon, donc au sud d'Avignon.
Et vous intervenez également dans le 04 ?
Jusqu'à présent, j'avais fait une première adaptation d'un livre de Jean Giono, Le Hussard sur le toit. J'avais proposé de mémoire en 2018 un événement qui s'appelait La Hussarde, qui faisait une boucle effectivement au départ de Manosque et qui allait jusqu'à Théus dans les Hautes-Alpes. Mais sinon, j'ai étonnamment, alors que c'est un très beau département, jamais proposé d'autres événements. On est passé au retour d'une Born to Ride, le retour d'Italie. Là, on va faire le chemin un peu inverse par le 04, mais de manière assez brève. La Born to Ride, c'est un événement qui intervient, on va dire, chaque année, chaque début juin. Maintenant, donc, depuis 2012, après il y avait une petite trêve et, en fait, la vraie première édition avait lieu en 2016 autour d'une thématique qui était les cathédrales. Sinon, chaque année, maintenant, les gens ont pris l'habitude de l'appeler la BTR, comme Born to Ride. Donc, chaque année, il y a un point de départ, un point d'arrivée, 4 points de contrôle, ou éventuellement un peu plus. C'est un voyage de cyclotourisme, qui fait 1200 km. On a choisi pour ville de grand départ, la ville de Manosque.
Il ne s'agit pas d'une course, évidemment, c'est plus le principe d'un rallye, on visite, on pédale.
C'est exactement cela, et le but d'autant plus, alors avec cette année, la thématique autour de Giono et donc de son voyage en Italie, qui était un voyage qu'il a réalisé à l'automne 51 avec sa femme Élise et puis les époux cadières Antoine et Germaine. Ils étaient partis en Renault 4 chevaux, j'avais beaucoup aimé, enfin je suis assez fan de Giono. J'ai beaucoup aimé le livre et donc m'est venue l'idée effectivement d'en faire une adaptation à vélo. Alors on va éviter quelques endroits où était passé à la fois parce que c'était les années 50, que le réseau routier n'était pas le même qu'aujourd'hui, la densité de population, etc. Mais donc malgré tout, on ne passera pas par Milan, ce qui est la principale entorse, on va dire, par rapport au livre. Sinon, par contre, on passe quand même par Turin, par différents endroits. Et donc effectivement, oui, c'est un voyage de cyclotourisme où les participants voyagent en autonomie. Donc ils ont des sacoches, ils accrochent un peu à différents endroits sur leur vélo. Pour la plupart, ils prennent et ils dorment donc dans des hôtels, dans des gîtes, dans des campings, en fonction de leur choix. Là, cette année, c'était coupé en 6 étapes. Et donc, oui, il n'y a aucunement une approche de chrono. Ça serait d'ailleurs tellement dommage de faire ce type de voyage en roulant non-stop, ce qui était pour autant un peu le principe historique en 2016, 2017, 2018. On avait des gens qui faisaient les parcours proposés à l'époque plus ou moins non-stop, en dormant très, très peu. Donc, on avait affaire à plutôt une dimension un peu plus cyclo-sportive. Et maintenant, on est vraiment sur une approche beaucoup plus cyclo-touristique, d'où d'ailleurs ce découpage par étapes de 200 km qui permet, certes, globalement, on a quand même à peu près entre 10 et 12 heures de vélo par jour, mais de pouvoir prendre le temps de s'arrêter, de découvrir un peu la gastronomie locale, de prendre des photos, de voir les paysages.
Ça représente des groupes de combien de personnes environ et est-ce qu'ils utilisent leur propre matériel, parlant du vélo lui-même ?
Bien sûr, c'est leur propre vélo. On n'a pas de vélo pour l'instant, mais c'est pas que ce soit interdit, mais on n'a pas de vélo à assistance électrique. C'est une tendance qui se développe beaucoup, qui peut-être d'ailleurs ouvrira des spectres différents pour aller un peu plus vite ou avec un peu moins d'effort. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est que du vélo dit musculaire. C'est leur propre vélo, c'est leurs propres équipements. Ça s'appelle, c'est un peu le jargon qui est utilisé, y compris en France, c'est un terme anglais qui s'appelle le bikepacking, mais on va dire le principe d'emmener des petits bagages et des sacoches sur son vélo. On en voit d'ailleurs de plus en plus sur les routes de France, très clairement, et partout en Europe. Ensuite, ils préparent et ils roulent. Alors, pour certains seuls, puisque beaucoup de gens se présentent et s'inscrivent en étant seuls, au gré, et ça c'est une des spécificités d'ailleurs de ce voyage, et c'est pour la raison pour laquelle peut-être la Born to Ride a connu un essor très important, puisqu'en 2016, il y avait 38 participants. On avait fait à l'époque Vézelay, Barcelone. De l'année suivante, il y en avait 100. Et en 2020, on était, malgré la problématique d'ailleurs de la pandémie, il y avait 650 inscrits à l'édition des forêts. C'est aussi parce que ce type de pratique du vélo est en plein redémarrage. Alors, c'est pas du tout une invention, hein. Ça se pratiquait beaucoup dans les années 60-70. On appelait ça à l'époque le cyclotourisme. C'est-à-dire une fédération qui s'appelle la FFCT. Maintenant, je crois qu'elle s'appelle FF Vélo. Encouragée, développée. On voyait des familles entières partir avec la tente, pas mal de bagages et faire des voyages à vélo, que ce soit le long de la Loire ou quoi, différents endroits. Mais c'est vrai qu'il y a un gros, gros retour et toute génération confondue, toute CSP aussi confondue aujourd'hui, un vrai engouement pour le voyage à vélo. De surcroît, quand il y a des jolis parcours, des thématiques, je pense que pas mal de gens qui vont se présenter au départ le 4 juin prochain auront lu ou relu le livre de Jean Giono, et tout ça, c'est plutôt sympathique et bon enfant.
Lorsque vous dites en 2020 650 participants, ça veut dire 650 personnes en vélo au même moment sur la route ?
On avait déjà sur les 650, on avait 400 personnes sur le format long, 1200 km. Et puis, il y avait eu, c'était la première fois que je proposais ça en 2020, ce que j'ai appelé, et c'est encore le cas cette année, hein, la borne tout rail, donc pour essayer. Et donc là, c'est la moitié du parcours, soit la moitié nord, soit la moitié sud, ou est, hein, suivant un peu le trajet. Et donc là, en l'occurrence, vers cette année, il y a la possibilité de faire Manosque jusqu'à Brescia, donc les 600 premiers kilomètres, ou le deuxième secteur, intégralement italien, entre Brescia et Sienne. Et puis, en 2020, c'était 250 personnes sur la formule courte, hein, des 600 km. Alors à l'époque, ça n'était que le format, que la partie sud de cette édition des forêts. Et là, cette année, on a donc beaucoup moins de monde, puisqu'il y a, alors c'est lié, ça, tout ça, c'est l'effet Covid, hein, très clairement. Et puis aussi, un deuxième aspect, c'est qu'il y a de plus en plus d'offres et de propositions, qu'elles soient l'œuvre de structures comme la mienne, des structures privées ou des structures fédérales. Il y a de plus en plus, de par l'engouement, hein, de propositions. Et donc, les gens se répartissent sur tel ou tel événement. Donc cette année, la borne tout rail entre Manosque et Sienne va compter 170 participants, plus 30 au cumul des deux formats plus courts entre Manosque et Brescia Sienne. Voilà. Donc c'est 200 personnes. Donc quand ça part effectivement, donc là on a travaillé avec la préfecture, la police municipale de la ville de Manosque, le service des sports, etc. On va faire un départ normalement groupé à peu près, hein, un petit 200 personnes le samedi 4 juin au matin, devant le centre Jean Giono, en passant par la fameuse montée des vraies richesses, en passant devant la maison de Jean Giono, le Paraïs. On va contourner donc le Mont d'Or, puis redescendre du côté du rond-point de Pimarlet, puis prendre la route de Volx. Et là, très rapidement, ne serait-ce que déjà par le phénomène de côte, etc., en fait, tout s'étire très très vite. Et je serais tenté de dire qu'en tout cas, à hauteur de Volx, on aura déjà plus que des petits groupes de 4-5 cyclistes par-ci par-là. Sachant qu'une des caractéristiques aussi de cet événement est que l'itinéraire, moi je propose un itinéraire pour chacune des 6 étapes, mais il n'est pas obligatoire. Les gens ont la possibilité donc de dessiner, de tracer des variantes en fonction de différents critères, parce qu'ils veulent réduire le maximum de kilomètres, donc ils trouvent plus court encore que ce que j'aurais pu proposer, ou des points d'intérêt touristiques, du dénivelé aussi. Souvent, les gens chassent, alors même si les cyclistes aiment bien grimper, mais quand on part pendant 6 jours à vélo, évidemment, le dénivelé positif cumulé finit par être extrêmement fatigant. Donc, les gens cherchent aussi quelquefois à contourner quelques petits cols. Donc là, par exemple, moi, je l'ai fait passer à partir de Sisteron par la vallée de la Motte du Caire, mais il y a aussi la possibilité de continuer de remonter en passant par Talar, et donc la vallée de la Durance qui est un peu plus plane. On pourrait aussi imaginer que les gens puissent passer par Digne, le col du Labouré, et arriver, puisqu'ensuite on repasse par Savine pour aller, puisque la première étape va jusqu'à Montgenèvre. On voit que là déjà, on a 3 possibilités réelles sur des kilométrages à peu près voisins, mais avec des dénivelés différents. 80% par expérience des participants suivent les traces proposées par Chilcoot, mais quelques-unes choisissent des itinéraires, des variantes, on va dire, voilà.
Est-ce que vous-même et d'autres personnes que vous qui faites partie de Chilcoot seraient sur la route également ces jours-ci ?
Pendant le départ, nous, on va être là plutôt sur un véhicule qui est au contact de manière très régulière avec les participants et notamment sur les phases de départ chaque matin, puis dans la journée pour réaliser un certain nombre de photos et un film. Chaque année, on tourne aussi un film de l'édition. Et puis, bien évidemment, ensuite, on prend un peu d'avance pour accueillir les premiers, puisque les arrivées se font de manière très échelonnée en général sur ces formats de 200 km entre 17h et jusqu'à 22-23h le soir, hein, pour les plus lents ou les plus épicuriens. Par contre, moi, j'ai réalisé là tout récemment, avec une autre personne de Chilcoot, une reconnaissance intégrale de la première étape, à vélo. On l'a même fait à pignon fixe, donc avec des vélos de type ancien. Et on a fait une leçon Genève à vélo, ce qui m'a donné aussi l'occasion, voilà, de pouvoir reproposer par les réseaux sociaux des images et les premières sensations de cette première très belle étape, qui est d'ailleurs l'une des plus difficiles avec la dernière, en termes de dénivelé, je parle, hein, puisque la dernière, ça sera entre Bologne et Sienne, et là on traverse la région montagneuse des Apennins, vraiment à l'identique de Jean Giono et de ses amis en 51, et puis on passe par Florence, et ensuite on traverse aussi toute la région qui est assez vallonnée, un peu comme ici en Provence ou chez moi dans le Luberon, donc la vallée de la Toscane, magnifique, puisque j'ai choisi d'aller aussi un peu plus loin que le livre pour une question de format, 1200 km. Alors que quand on était à un petit 1100 à Florence, on passe bien évidemment par Florence, hein, où se termine le livre. Les cyclistes aussi, je le sais, vont apprécier, puisque je les fais passer par une partie des Strade Bianche, cette fameuse et désormais assez mythique course qui se court chaque début avril maintenant pour les professionnels, et qui arrive là où on va aussi arriver, à cette fameuse place Il Campo, donc d'ancienne, en montant le même itinéraire. Et donc c'est cette fameuse place très jolie où se court cette course, le Palio, la course des chevaux, voilà, à ça.
Est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour participer à la prochaine BTR? Et si vous pouvez nous redonner les dates et les rendez-vous?
Oui, il est encore possible de s'inscrire sur le site chilcoothouse.com. Les dates, le départ de Manosque, c'est donc l'accueil, hein, se fait de 10h à 18h au parc Drouille, avenue Alphonse Daudet. Ensuite, le soir, il y a un dîner d'avant-départ qui sera servi avec le concours et la générosité de Jean-Guillaume d'Herbès au château Saint-Jean-Lesvé-Durance, donc en périphérie, hein. Le lendemain, donc le départ et la mise en formation du peloton devant le centre Jean Giono le samedi 4 juin va être réalisé entre 7h et 7h45. Il y aura normalement la présence de Sylvie Durbet-Giono, donc la fille de Jean Giono, ainsi que le premier adjoint au maire, Monsieur Desmoulins, qui est, je crois d'ailleurs, délégué au sport, qui sera là. Le but étant de faire un départ que l'on va appeler un départ fictif, un peu comme sur les grandes épreuves cyclistes, avec une voiture qui précéderait dans la montée des vraies richesses et le contournement du Mont d'Or jusqu'au départ de la route de Volx. Et puis ensuite, eh bien voilà, les gens seront partis. On a donc 6 grandes étapes. La première étant Manosque-Montgenèvre, ensuite Montgenèvre-Arona. Donc là, on bascule en Italie. Arona-Brescia le lundi 6 juin. Le mardi 7 juin, Brescia-Venezia. Le mercredi 8 juin, Venezia-Bologne. Et le 9 juin, dernier jour, l'étape entre Bologne et Sienne.
Luc Royer, ce nom de Chilcoot, comment l'avez-vous choisi et pourquoi?
Ce nom, ben oui, effectivement, il est un peu curieux. C'est un nom indien, c'est un col, le Chilcoot Pass. C'est par là que sont passés les pionniers de la ruée vers l'or, et étant assez fan de Jack London, il faut savoir que Jack London, entre autres, Cro-Blanc, l'appel de la forêt, est passé lui-même, puisque comme tous ces pionniers en quête d'or à la fin du 19e siècle, hein, en plein hiver, à ce Chilcoot Pass. Et une fois, je me souviens d'être tombé dans un magazine sur un reportage qui évoquait toute cette épopée, toute cette gold rush, et de voir tous ces gens, les uns derrière les autres, en train de franchir en plein hiver ce col, m'a inspiré une espèce de détermination, chacun ayant, il y avait peut-être la soif de l'or, mais je pense que pour beaucoup, il y avait surtout une soif d'aventure. Et moi, ça m'intéresse particulièrement parce que je suis vraiment un passionné d'aventure. Alors, historiquement, plutôt dans des grands espaces, et y compris aussi sur une à la montagne. Et puis, le voyage à vélo s'est aussi très vite invité chez moi et un peu imposé. Cette association, anciennement association, d'ailleurs, qui existe toujours aussi, et société, c'est Chilcoot, la compagnie des pionniers, avec cette dimension qui est importante pour moi, d'où d'ailleurs le fait que chacun de ces événements Born to Ride, il n'y en a jamais deux identiques. Chaque année, la thématique et le voyage changent. C'est que j'aime découvrir de nouveaux horizons et faire découvrir de nouveaux horizons. J'ai une quote-part alors non négligeable de gens qui, pour certains d'ailleurs, ont fait toutes les éditions parce qu'ils sont véritablement fans et que pour eux, c'est le début juin, c'est synonyme de ce voyage et où Luc, où Chilcoot va nous emmener cette année.
Luc, avez-vous été vous-même sur cette passe à Chilcoot?
Alors non, c'est moi. Pour l'instant, alors je ne veux pas dire que c'est une grande décision parce que j'ai encore, même si je commence à avoir un petit peu d'âge, hein, parce que j'ai aujourd'hui 52 ans, mais je suis convaincu et quasi certain qu'il faudra absolument que j'y aille. J'ai créé moi, quand même l'association en 99, donc ça fait quand même maintenant de nombreuses années. Pendant de nombreuses années, j'ai proposé différentes choses sur différents univers sportifs. Et donc oui, aller pour moi là-bas à Skagway et faire d'ailleurs peut-être ce parcours qui était de 700 km, entre Skagway sur le littoral du Pacifique en Alaska franchir relativement rapidement ce fil coup de passe, puis, à l'époque, hein, construire un radeau, descendre des rapides et aller jusqu'à Dawson, là où il y avait ces fameuses découvertes, on va dire, de filons d'or. C'est quand même un parcours de 700 km. Alors, d'ailleurs, j'y ai réfléchi et j'y ai réfléchi quelques fois à une adaptation parce qu'il y aurait des routes, mais à ce moment-là, on passerait pas forcément par le fil coup de passe puisque le fil coup de passe est quand même quelque chose qui est un peu comme dans les Alpes ou dans les Pyrénées. C'est un vrai col plutôt pour la randonnée, mais absolument pas en vélo. Ou alors, il faudrait porter le vélo, donc ça n'aurait pas vraiment de sens. Mais par contre, ensuite, une fois qu'on a contourné cette première zone de montagne, il y a tout un réseau routier, y compris ben, avec le fameux essor de ce que l'on appelle aujourd'hui le gravel, qui d'ailleurs est une pratique de vélo qui vient des États-Unis, hein, des vélos de route avec, on va dire, si je résume, avec des pneus de type VTT, qui se pratique beaucoup. Et le département des Alpes-de-Haute-Provence est alors particulièrement adapté à ce genre, parce qu'il offre beaucoup, beaucoup de possibilités en ce sens. Peut-être pourrait-il y avoir un jour une espèce d'édition et hommage de la Bantu Ride entre l'Alaska et la Colombie-Britannique, pourquoi pas, et le Yukon.